Prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est le plus beau des messages qu'un prédicateur puisse annoncer. Parce que nous croyons que c'est le message qui peut changer une vie. Nous pouvons prêcher beaucoup de choses et des choses qui sont importantes, mais le message que nous ne devons jamais oublier, c'est celui de la croix. Car sans le message de la croix, il n'y a rien d'autre. Il n'y aurait rien d'autre. Tout coule de la croix. C'est le message central des Écritures. C'était la promesse de Dieu. Et évidemment, dans cette période pascale dans laquelle nous entrons, nous avons là un temps favorable pour annoncer ce message de la croix. Les gens sont peut-être plus sensibles quand ils se souviennent, évidemment, de ce qu'est Pâques. Car pour beaucoup de ceux qui nous entourent, aujourd'hui, Pâques est vaguement associé à quelques œufs à aller chercher ou quelques pièces en chocolat. Et ils ont du mal à faire le lien entre l'évangile et la croix, sinon quelques pèlerinages qui peuvent se produire de droite ou de gauche. Mais il nous appartient aussi de rappeler pourquoi Pâques. Il nous appartient de rappeler qu'il y a de nombreux siècles en arrière, celui qui est le Fils de Dieu a donné sa vie pour le salut des hommes. Et pour moi, annoncer l'évangile et prêcher la croix, c'est là un message particulier et c'est un message que je veux partager avec vous. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 2. Vous allez me dire, nous ne sommes pas là dans le récit de la Passion, puisque nous sommes à peine au chapitre 9, mais nous allons voir comment ce texte va nous permettre de rebondir et d'arriver jusqu'à la prédication de la croix. Marc, chapitre 9, verset 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Oh, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Alors pour essayer de replacer ce texte dans l'histoire de l'Évangile, mais aussi pour le rattacher à des choses que nous avons déjà vues ensemble, nous nous rappelons que quelques jours auparavant, dans ce village de Césarée de Philippe, Pierre avait reçu une parole spéciale de Dieu. Le Père lui avait montré cette chose extraordinaire, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Telle était la confession de l'apôtre Pierre, non inspirée par les hommes, mais inspirée par le Père. Et nous savons que s'il avait été capable de dire cela, malgré tout, il n'était pas encore capable de le comprendre. Et quelques instants plus tard, Jésus sera obligé de le reprendre et de lui dire cette parole sévère, « Arrière de moi, Satan accusateur, car tes pensées, tes paroles ne sont pas de Dieu, mais sont de l'homme. » Et les jours sont passés, et Jésus leur a annoncé ceci. Nous le voyons au début du chapitre 9. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et une semaine plus tard, six jours plus tard, dit le texte, Jésus prit donc avec lui les trois des disciples et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, nous ne savons pas laquelle exactement. Et sur cette montagne, ils vont recevoir une nouvelle révélation concernant Jésus. À travers ce qu'ils vont voir, cette transfiguration, ils vont recevoir une nouvelle révélation, non point inspirée directement par la pensée, par le Saint-Esprit, par le Père, mais à travers ce qu'ils vont voir. Et Luc dira dans son évangile au chapitre 8, verset 32, que sur cette montagne, ils virent la gloire de Jésus. Ils avaient donc confessé premièrement que Jésus est le Christ, et maintenant, quelques jours après, sur la montagne, ils voyaient combien et comment Jésus est le Christ et quelle était sa gloire. Et ce qu'ils ont vécu ce jour-là a vraiment marqué leur cœur. Puisque 30 ans plus tard, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 16, dira « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux ». Et Jean, dans l'introduction de son évangile, au chapitre 1er, verset 14, dira « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Et nous les comprenons, devant un tel événement, devant une telle manifestation de la divinité, les cœurs sont marqués pour toujours. Et peut-être est-ce votre cas, vous pouvez dire que vous aussi, vous avez vu le royaume de Dieu venir avec puissance dans votre vie. Un jour, quelque chose s'est produit. Était-ce une parole de Dieu? Était-ce une vision, un songe, une révélation, un message de Dieu, une prédication, un don spirituel? Mais vous avez été comme marqué d'une manière indélébile dans votre cœur et vous dites « Oui Seigneur, j'ai vu la majesté et la gloire de Jésus ce jour-là dans ma vie. » Et vous en gardez un souvenir extraordinaire. Alors que se passa-t-il exactement sur cette montagne? Et nous allons faire un peu de théologie pour comprendre des choses importantes pour notre foi. Et nous nous rappelons ce que l'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Parlant de Jésus, il disait « Existant en forme de Dieu, le Fils n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » C'est ce que les théologiens appellent la kénose, le dépouillement. Et cette phrase, cette parole de Paul nous donne beaucoup d'instructions concernant le Fils. Tout d'abord, nous apprenons que le Fils est de la même nature que le Père. Il existait en forme de Dieu. Ce que le Père est, le Fils l'est aussi. Et nous disons qu'il est de la même substance que le Père. Nous disons qu'il est consubstantiel au Père. Nous apprenons aussi que le Fils partage le même rang que le Père. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il est donc dans la même position, au même niveau, au même rang que le Père. Le Fils n'est pas subordonné au Père. Et l'apôtre Paul nous révèle aussi cet acte que le Fils a consenti. Par obéissance au Père d'abord et par amour pour nous. Il nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée. C'est-à-dire qu'il n'a pas lutté, il n'a pas résisté, mais il a accepté. Qu'a-t-il accepté? De renoncer à sa position glorieuse auprès du Père pour paraître parmi les hommes tel un simple homme, l'apôtre Paul dit, tel un esclave, tel un serviteur. Concernant Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le ciel et de toute éternité, il existait sous forme de Dieu, en forme de Dieu. Et quand il est venu sur terre, il a pris une forme d'homme. Cela ne veut pas dire qu'il a renoncé à sa nature. Il n'a pas abandonné sa nature. Jésus sur terre est toujours Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa nature divine, cette forme divine, est devenue comme cachée. Cachée derrière sa forme humaine. Sa gloire était cachée. Et cette gloire n'était révélée qu'à ceux à qui il voulait la révéler et qui croyaient en lui. Et par exemple, après le miracle des noces de Cana, il nous est dit que c'est là que le Seigneur commença à manifester sa gloire. Mais sa gloire était cachée. Or, sur cette montagne, Jésus, tout en gardant sa forme humaine, a manifesté ce qui était caché. Cette gloire rayonnante, brillante, il l'a relâchée. Et que s'est-il produit? Les évangélistes nous racontent que la gloire était tellement intense que ses vêtements sont devenus comme resplendissants. Et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre, on dirait, pour un langage plus moderne, pas de lessive, mais c'est ce que ça veut dire, sur la terre, qui puisse blanchir ainsi. Quel éclat! Quel rayonnement! Quelle vision extraordinaire! Voir Jésus dans sa gloire, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Et ce n'est pas tout. Non seulement ils ont vu Jésus ainsi, mais le ciel s'est ouvert. Et ils ont vu apparaître deux hommes. Et ils les ont reconnus comme l'un étant Moïse et l'autre étant Élie. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, nous parle de ces deux hommes. Et l'apôtre Jean, inspiré par le Seigneur, les appelle les deux témoins. Ils sont les deux témoins. Le texte dit dans l'Apocalypse 11, ce sont les deux oliviers, les deux chanteliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà ce qu'étaient Moïse et ce que sont Moïse et Élie, deux oliviers, deux chandeliers qui se tiennent devant Dieu. L'un représente la puissance de la parole, c'est Moïse, la sagesse de Dieu. Et l'autre, Élie, représente la puissance de l'Esprit, les miracles, la force du Seigneur. Et nous pouvons dire qu'il y avait là une belle compagnie. Et pour les disciples, être dans un tel environnement, c'était quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, c'était quelque chose qui les écrasait, qui les dépassait. Parce que quand on touche à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus-Christ, l'homme n'est que peu de choses. Et alors, un peu effrayé, comme le dit le texte, un peu déboussolé, un peu dépassé, un peu écrasé par tous ces événements, ils ne savaient pas trop quoi dire, mais ce qui était certain pour eux, c'était que l'endroit où ils étaient était le meilleur des endroits pour rencontrer et toucher la divinité. Oh, c'est extraordinaire, nous avons touché le ciel est venu à notre rencontre, et Pierre... Pierre qui était tellement bien, c'était un bon endroit, a dit « Seigneur, dressons trois tentes car nous sommes bien ici, c'est merveilleux !» Vous aimeriez être sur la montagne, n'est-ce pas? Oh, c'est ce que beaucoup d'hommes, de femmes, même non chrétiens et même parmi les chrétiens recherchent aussi. Ils recherchent cette montagne de la gloire, cette montagne de la transfiguration. Ils désirent contempler la gloire de Dieu. Ils désirent voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Ils désirent se tenir dans cet endroit, dans ce lieu où la gloire, la puissance, la sagesse de Dieu se rencontrent. Le désir d'une véritable rencontre avec la divinité. Des gens sont à la recherche de ce type d'expérience. Et les chrétiens prient pour un véritable réveil. Seigneur, nous voulons monter sur cette montagne et contempler ta gloire. Seigneur, c'est là que je veux être. C'est là que vous voulez être. Alléluia. Et voilà que le Père se manifeste. À travers une nuée, une voix se fait entendre, c'est la voix de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, vous pourrez regarder, Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu dit toujours la même chose. Il n'a qu'un message à nous donner. Savez-vous quel est-il ? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà le message de Dieu dans le Nouveau Testament. Quand Dieu parle, il ne dit que cela. Et quand Dieu parle aujourd'hui, les hommes veulent entendre Dieu. Ils cherchent Dieu. Eh bien, ils seront surpris parce que Dieu n'a qu'une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand les hommes cherchent Dieu, Dieu leur montre son fils Jésus. Alléluia. Mais aussitôt que Dieu eut fini de parler, la manifestation glorieuse s'arrêta subitement. Disparus Élie et Moïse, fermez le ciel derrière la nuée. Finie la gloire manifestée de Jésus. Et le texte nous dit qu'il ne restait que Jésus seul avec eux. Non pas le Jésus glorifié qu'ils avaient vu, mais le Jésus de Nazareth qui marchait avec eux, tel un simple serviteur. C'était le même, le croyez-vous ? C'était le même. Et c'est celui que le Père aimait autant. Permettez-moi de m'arrêter juste un instant. Nous croyons dans l'importance des expériences, des moments où nous touchons la gloire de Dieu. Et nous, le peuple de Pentecôte, nous sommes sensibilisés à ces choses. Mais il nous appartient de veiller à ceci. Ce texte nous montre que toute expérience extraordinaire n'a qu'un but. Jésus. Après cet événement glorieux, quand Élie et Moïse eurent disparu, quand la révélation se fut estompée, le texte nous dit qu'il ne restait que Jésus seul avec eux. Et si une expérience, si une manifestation ne conduit pas à Jésus, repoussez-la. Repoussez-la parce qu'elle n'est pas de Dieu. Car Dieu n'a qu'une volonté, c'est que nous écoutions son Fils. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre de l'intervention du Père? C'est que si Pierre voulait dresser trois tentes dans cet endroit parce que l'endroit était bon, Dieu, lui, ne voulait pas de ces tentes. Il ne voulait pas que Pierre et les autres disciples demeurent sur la montagne. Il ne voulait pas qu'ils s'installent dans cette vision. Ils ne voulaient pas qu'ils restent sur ce lieu, espérant qu'une autre fois Dieu vienne encore les visiter de cette manière. Ils ne voulaient pas que ce temps unique devienne une norme. La montagne de la Transfiguration, quelle que soit la gloire qui est manifestée, n'est pas le lieu pour rentrer dans la présence de Dieu. Cette expérience-là, glorieuse, magnifique, extraordinaire, je prendrai cette image, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre ouverte sur le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas la porte. Et dans la maison de Dieu, on ne rentre pas par la fenêtre. On rentre par la porte. Mais c'est une fenêtre ouverte pour nous faire contempler les beautés du royaume de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu non plus à travers la gloire du Fils, à travers même des visions, même si elles sont authentiques. Laissez-moi quand même vous parler un instant de ces visions, de toutes ces manifestations spirituelles. Pour moi, bien sûr, lorsqu'elles sont authentiques et qu'elles conduisent à Jésus, toutes ces manifestations spirituelles sont des manifestations préparatoires et non pas finales et décisives. Il y a bien des peuples où nous entendons que Dieu se manifeste, se révèle à travers des visions, notamment dans les pays arabes, dans les pays musulmans, parmi les Kabyles, parmi les Iraniens et même parmi les Juifs en Israël. Nous savons que ce sont des choses qui se produisent. Mais laissez-moi vous dire, vous pourrez voir les témoignages. Ce ne sont pas des choses décisives, mais ce sont des choses préparatoires qui poussent ces hommes et ces femmes à aller chercher ce qui sera décisif, un lieu de rendez-vous que Dieu leur fixe et dont nous allons parler tout de suite. Car le rendez-vous que Dieu nous donne, ce n'est pas sur la montagne de la Transfiguration, mais c'est sur un autre rocher qui s'appelle le Golgotha. C'est là que Dieu nous appelle. Et le moyen qu'il nous donne pour nous approcher de lui, ce n'est pas la gloire, mais c'est l'humiliation et le sang de Jésus. Et je dirais, ne nous trompons pas de rendez-vous. Vous n'aimez pas vous tromper dans vos rendez-vous. Vous n'aimez pas vous tromper d'horaire. Vous n'aimez pas vous tromper de lieu. Vous n'aimez pas vous tromper de personne. Je vous en prie, ne vous trompez pas avec Dieu. Le rendez-vous que Dieu nous fixe, il est là sur ce rocher qui s'appelle Golgotha. Et Dieu fixait donc un nouveau rendez-vous à ses disciples, vers une autre montagne. Et Jésus et les trois disciples sont descendus de cette haute montagne de la Transfiguration. Le texte dit « ils descendirent de la montagne » et alors ils commencèrent un dernier voyage avec Jésus. Un voyage qui les conduirait jusqu'à Jérusalem. Un voyage qui les conduirait à cette montagne, ce rocher qui s'appelle le Golgotha. Voyez-vous, à ce passage que nous venons de lire, nous sommes à peine à la moitié de l'évangile de Marc. Nous sommes au début du chapitre 9 et Marc à 16 chapitres. Nous sommes à peine à la moitié. Il y a encore un long chemin. Ils ont pourtant entendu qui est Jésus. Il est le Christ. Ils ont pourtant contemplé la gloire de Jésus, la gloire du Fils unique venu du Père. Mais il y avait encore une longue marche jusqu'à Golgotha. Et vous savez quelle est cette marche? C'est la marche pour comprendre pourquoi le Fils de Dieu, glorieux et puissant, est venu sur cette terre. Et le chemin qui va les conduire jusqu'à Jérusalem et jusqu'au Golgotha n'est pas un chemin de gloire. Le texte dit plus loin qu'ils seront effrayés. Et Jésus leur parlera de souffrance, d'humiliation, de rejet, de mort et de résurrection. Et ils suivront ainsi le Seigneur jusqu'au bout de cette route, jusqu'au bout du Golgotha. Vous connaissez les évangiles et vous avez fréquemment lu ces passages sur la crucifixion. Vous ne connaissez pas les évangiles, mais vous avez peut-être vu des tableaux au Louvre, dans un autre musée, vu des films, des représentations. Et vous avez l'image de ce qu'est le Golgotha. Vous voyez peut-être ces trois croix qui sont dressées. Vous voyez peut-être les ténèbres qui entourent ce rocher à Jérusalem. Vous voyez peut-être ces soldats romains, ces brigands. Vous voyez cette foule qui est là, certains pleurent, d'autres se moquent. Et cet endroit n'a rien à voir avec la montagne de la Transfiguration. Des trois disciples qui étaient montés avec Jésus sur la montagne, il n'en restait qu'un, que Jean. Alors qu'il y avait une éclatante lumière à la montagne de la Transfiguration, lorsque nous arrivons en Golgotha, il n'y a que les ténèbres. Les ténèbres étaient tombées sur Jérusalem lorsque Jésus était à la croix. Il n'y avait pas de vêtements resplendissants, mais Jésus a été dépouillé de ses vêtements. On lui a enlevé ses vêtements. Les soldats se sont partagés et ont tiré au sort ses vêtements. Il n'y avait pas des lits de Moïse, il n'y avait pas les deux chandeliers, il n'y avait pas les deux oliviers, mais autour de Jésus, il y avait deux brigands. Et ce n'était pas la même compagnie. Il n'y avait pas de gloire, mais il y avait la souffrance et il y avait l'agonie de Jésus-Christ. Et il n'y avait pas même la voix de Dieu. Et Jésus, au bout de ses forces, de s'écrier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le ciel restait fermé. Alors nous nous posons cette question. Qui aurait envie de dresser une tente à cet endroit ? À cet endroit, rien ne reflète la gloire de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est à cet endroit qu'un homme, un officier romain, suivi par des milliers et des millions dont nous sommes aussi, ont pu dire, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. C'est là, à cet endroit, que nous avons fait nous aussi cette confession. Il n'y avait rien pour pousser l'officier romain à dire cela. Il n'y avait rien pour nous pousser nous aussi à dire cela. Sinon que l'humilité, la douceur, l'amour qui émanait de Jésus-Christ. Père, pardonne-leur. Et notre cœur a été touché. Je voudrais revenir à un texte de l'apôtre Paul. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 22 à 23, Paul écrit ceci, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Alors les Juifs d'hier et d'aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens, juifs ou religieux, cherchent toujours les miracles et les signes. Ils veulent la gloire, ils veulent les visions, ils veulent la puissance, mais ils repoussent le sang, ils repoussent la croix, et pour eux c'est un scandale. Et nous sommes inquiets de savoir que dans des églises évangéliques, dans des églises de Pentecôte, dans des églises charismatiques, on en vient à ne plus prêcher la croix. On prêche l'épanouissement personnel, on prêche la psychologie chrétienne. Il y a certainement de bonnes choses dans cela. Mais s'il n'y a pas la prédication de la croix, tout est vain. Mais la prédication de la croix dérange. Parce que associée à la prédication du sang, il y a la prédication de la repentance, la prédication du brisement, du péché, de la mort et de la condamnation. Nous prêchons Christ crucifié. Parce que c'est là qu'est la vie. Et permettez-moi de nous mettre en garde encore une fois. Attention à vouloir rencontrer Dieu en prenant des raccourcis. Vouloir monter sur la montagne de la Transfiguration sans passer par le Golgotha. Vouloir aller dans la chambre haute sans passer par le Golgotha. Vouloir aller à Pentecôte sans la Pâque. Vouloir la puissance de l'Esprit sans la puissance du sang. Vous savez ce qui risque d'arriver ? Oh oui, vous verrez des choses. Mais Jésus sera-t-il là ? Jésus sera-t-il là ? Il y aura des esprits, mais Jésus sera-t-il là ? Les Juifs modernes, les Grecs modernes aussi, oh, ils nous entourent ces Grecs modernes. Ils sont là tout autour de nous, philosophes, rationalistes, tout ce que vous voulez. Et pour eux, ils cherchent toujours la sagesse et ils méprisent la croix. C'est une folie. C'est une folie. Comment Dieu peut-il permettre un message comme cela? Le sang, oh le sang! Quel message barbare! Quel message répugnant! Et pour certains même, quel message gore! Oh! Mes frères et sœurs, nous gardons cette conviction intacte dans nos cœurs que le seul lieu pour rencontrer Dieu, c'est le Golgotha. Et le seul moyen pour nous approcher de Dieu, c'est le sang de Jésus humilié, frappé, blessé pour nos péchés, portant notre malédiction et subissant notre châtiment. Voilà ce qu'est Golgotha. Et je voudrais vous dire qu'à Golgotha, la puissance de Dieu, pardonnez-moi plutôt, la folie de Dieu, s'est montrée plus sage que toute la sagesse des hommes. À Golgotha, la faiblesse de Dieu s'est montrée plus forte et plus puissante que toute la puissance des hommes. À Golgotha, la puissance de Dieu a été manifestée. Car c'est là que le Seigneur a brisé le péché. C'est là qu'il a brisé les malédictions. C'est là qu'il a brisé la puissance de Satan et la puissance de la mort. C'est là aussi que la sagesse de Dieu a été manifestée. Car il a plu de donner à Dieu un seul salut pour toute l'humanité, un seul sauveur. Quel que soit notre passé, notre présent, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion, ton milieu social, il n'y a qu'un seul sauveur et c'est Jésus. Et c'est là la sagesse de Dieu et c'est aussi là la gloire de Dieu. La gloire de Dieu à Golgotha, où est-elle? Il n'y a que ténèbres, oui, mais il y avait Jésus, et Jésus est la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est que Dieu, par amour pour nous, nous a donné celui qu'il aime de toute éternité. Ça, c'est la gloire et la grâce de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami particulièrement, laisse-moi te dire que Dieu te donne un rendez-vous, mais non pas sur cette haute montagne de la transfiguration, qui n'est qu'une fenêtre ouverte sur son royaume. Mais il te donne un rendez-vous aujourd'hui à Golgotha. Oh, tu n'as pas envie d'y dresser ta tente, c'est vrai. Il n'y a rien pour nous y attirer, il n'y a rien pour nous plaire. Il est dit qu'il n'avait rien pour nous attirer, lui, le Messie. Mais c'est là que Dieu nous attend. C'est là, à ce lieu de brisement, d'humiliation, de souffrance, de mort, c'est là qu'il nous attend. Pour que notre péché soit jugé, pour que nos malédictions soient brisées, et pour que la victoire que Jésus a acquise nous soit communiquée. Dieu te donne un rendez-vous à Golgotha, un lieu unique. Alléluia.